France Inter.
Écrivain, magistrat et président de cour d'assises à la cour d'appel de Versailles, Marc Trividic fut longtemps juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, où il œuvra notamment sur les dossiers de l'attentat de la rue Copernic, l'attentat de la rue des Rosiers, l'explosion de l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, l'assassinat des moines de Tibirine et l'attentat de Karachi. Ancien premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille, il est l'auteur de plusieurs essais de référence sur le terrorisme et de romans. Il s'illustre aussi comme scénariste de bande dessinée et anime une chaîne YouTube consacrée à la vulgarisation de ses sujets d'expertise. Il vient de publier le roman 8e section aux éditions Gallimard, enfin dans leur collection la plus chic après la Pléiade, La Série Noire, qui fête ses 80 ans cette année. Le livre, en lice pour deux prix au festival Quai du Polar, Polar en série et Polar européen du Point, ressuscite l'historique 8e section du parquet de Paris, anciennement chargé des crimes et des flagrants délits, où l'auteur a œuvré dans les années 90. Une enquête haletante entre la France et le Maroc qui vous en apprendra autant sur les rouages de la justice qu'un essai documentaire. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Marc Trividic.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, j'ai beaucoup apprécié mon petit séjour à Bordeaux, où je suis allé au château d'Yquem. J'étais invité pour un déjeuner et j'ai découvert comment ils faisaient leur vin, c'est quand même pas rien. J'étais un peu crispé par les annonces de Trump de 100% de taxes, ils n'y croyaient pas trop, mais bon. Et donc ça m'a beaucoup enthousiasmé parce que je connais un peu les différents procédés, mais je ne connaissais pas l'histoire de ce château d'Yquem. En plus.
Vous êtes né à Bordeaux.
Oui,
mais. Et je vous demandais une découverte pour les auditeurs. Alors, je vous propose qu'on la divulgage, comme disent les Canadiens, immédiatement, puisque c'est un livre et ça a un rapport avec le château d'Yquem.
Oui, c'est l'histoire de Joséphine d'Yquem, la personne qui est en grande partie, pas toute seule, mais en grande partie responsable de ce vin assez extraordinaire que l'on connaît aujourd'hui, hein, que les Américains adorent en particulier, puisque Thomas Jefferson adorait ce vin et en a acheté pas mal. Et c'est l'histoire d'une femme assez extraordinaire aussi, qui a vécu très longtemps, qui a évité d'être guillotinée. Il faut dire qu'elle a donc découvert ce qu'ils appellent là-bas, la pourriture noble. C'est ce champignon qui se dépose sur les grains de raisin. Et grâce à l'action conjuguée d'une certaine humidité, parce qu'il y a un petit fleuve qui passe, et puis après le soleil, et puis après le vent froid, il y a ces changements d'humidité et de sécheresse qui font développer cette pourriture noble. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas été guillotinée, je viens d'y penser. Arriver à faire de la pourriture noble quelque chose qui serve à quelque chose, ça a dû plaire aux révolutionnaires.
C'est de l'ordre de l'alchimie, quasiment.
Ouais, c'est sûr.
Votre carrière dans la magistrature débute quand vous êtes nommé juge d'instruction à Péronne, en Picardie. Vous avez 25 ans à cette époque. Vous vous souvenez de cette époque ?
Ah oui, très très bien. Alors, à la fois, ça pourrait paraître bizarre, parce que se retrouver à 25 ans au milieu des champs de betteraves, j'ai rien contre, mais c'est tout plat quand même, et c'est des champs de betteraves. Mais bon, je veux pas offusquer. Mais d'un autre côté, les gens étaient charmants. Il y avait une grande liberté à l'époque. Un juge d'instruction était vraiment la pièce centrale de la procédure pénale. Et beaucoup moins de règles de procédure pénale. Donc, alors, on se déplaçait facilement, on enquêtait très facilement, une très très grande liberté que j'ai beaucoup appréciée. Ces années-là, je les ai vraiment goûtées au maximum. En plus, j'étais jeune quand même.
Alors justement, plus tard, quand vous êtes devenu président de l'Association française des magistrats instructeurs, vous êtes opposé au projet de Nicolas Sarkozy, alors président, de supprimer le poste de juge d'instruction. Quelle est la particularité d'un juge d'instruction ? Je vais vous poser des questions comme une enfant, justement pour vulgariser au sens noble, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre un savoir que tout le monde n'a pas.
Alors d'abord, c'est un juge du siège, c'est-à-dire qu'il a un statut d'indépendance. Il n'est pas hiérarchisé comme un substitut, un procureur, hein, qui sont hiérarchisés. Son statut d'indépendance est là pour garantir justement l'indépendance de l'enquête. C'est pas tellement la sienne qui compte. Et il va diriger les enquêtes qui lui sont confiées, les informations judiciaires. Il est censé instruire à charge et à décharge. Et en tant que juge, ses principales décisions sont susceptibles d'appel. devant trois magistrats de la cour d'appel, la chambre de l'instruction. Et donc, il y a vraiment un contrôle juridictionnel. Et l'instruction a cette particularité en France que toutes les parties, partie civile, la personne qui est mise en examen, peuvent demander des actes au juge d'instruction. Il peut refuser, évidemment, de les faire, mais son refus est susceptible d'appel. Donc tout ça pour essayer d'avoir du contradictoire pendant la phase d'enquête, contrairement aux enquêtes du parquet, qui ne sont pas contradictoires. Il y a le parquet fait son enquête, et puis voilà. Donc c'est important dans une démocratie. Juste pour finir, un point essentiel, quand le parquet décide, le procureur hiérarchisé, de classer une affaire, les citoyens peuvent aller devant le juge d'instruction, ce qu'on appelle une constitution de partie civile, et donc ça permet malgré tout de mettre en mouvement l'action publique et qu'il y ait une enquête de fait.
Alors, vous avez employé l'adjectif contradictoire en parlant de contradiction apparente. Mmh. Vous avez publié la fable pour enfants en alexandrin, Les aventures de la torture adrienne, la même année que votre affectation à la 8e section des crimes et flagrants délits à Paris. Est-ce que c'était un grand écart ou est-ce que vous avez toujours vu du romanesque dans tout ?
D'abord, c'est le goût de l'écriture qui m'a fait en alexandrin. Non, en fait, c'était pour faire plaisir à ma mère. Alors, c'est là où on parle quelque chose qui est un peu touchy pour moi, c'est que mon père...
Puis, votre mère a décidé de vos affectations aussi en vous, sa santé.
Non, bah voilà, mon père est décédé, j'étais à Nantes, et ma mère, dans la foulée, a développé une leucémie myéloblastique. Donc, j'ai, de Nantes, où j'étais à la permanence, je suis venu à Paris en sachant que je risquais de me retrouver à cette fameuse 8e section, j'étais clé en main. Et donc j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires pour enfants. Et ma mère aimait beaucoup. Et comme elle était à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, j'ai écrit ça pour elle. C'est pour ça que ça lui est dédicacé. Il était un temps où l'espoir n'était plus, mais reviendra peut-être, etc. Donc il y avait de ça. Donc c'est très personnel. Voilà, c'était juste un cadeau à ma mère qui a pu le lire avant de décéder.
Vous avez été très tôt concerné par les affaires pénales les plus graves et les plus complexes. Qu'est-ce qui vous attirait dans cela ?
L'enquête. L'enquête, en fait, j'étais un bon juriste, mais je me suis dit assez rapidement, si je fais que du droit, si je suis dans un bureau juste à rédiger des jugements, là, je vais m'ennuyer. J'ai une chance, c'est que voilà. Le poste de juge d'instruction ou le parquet, c'est utiliser le droit, mais dans, j'irais dans les enquêtes de tous les jours, c'est simplement, c'est d'abord l'enquête, et puis après, on respecte la loi, la procédure pénale, pour que les preuves soient recevables, etc. Mais enquêter, diriger une enquête, chercher des preuves, trouver les coupables de préférence et ne pas se tromper, c'est quand même fabuleux, surtout quand les dossiers sont eux-mêmes fabuleux. Et bah, le monde du crime offre des choses auxquelles on ne pourrait même pas imaginer toucher, hein, des choses complètement surréalistes, bien souvent, des aventures humaines, certes dures la plupart du temps, mais passionnantes.
Est-ce que vous avez remarqué, Marc Trévidic, que 40 000 est un chiffre qui apparaît dans votre parcours ?
40 000 ? Oui. Non, je ne vois pas ce que ça peut être.
D'abord, il y a eu 40 000 signatures sur une pétition qui souhaitait vous maintenir au poste de juge d'instruction à l'antiterrorisme, alors qu'il y avait une loi décrétant que les magistrats ne peuvent occuper les mêmes fonctions plus de 10 ans. Et vous avez vendu 40 000 exemplaires de l'ouvrage « Terroriste, les 7 piliers de la déraison ». Bon, moi, je vois des liens entre tout, évidemment. Quel prochain 40 000 peut-on vous souhaiter ?
Surtout les prochains livres, alors.
Bah oui, c'est très bien.
Pendant qu'on y est. Non, parce que là, je veux 40 000. Je ne pensais pas que c'était un chiffre aussi important dans ma vie.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Je suis avec l'écrivain, magistrat et ancien juge antiterroriste Marc Trévidic qui publie le roman 8e section dans la mythique collection Série Noire des éditions Gallimard créée par Marcel Duhamel. Et là, je vous pose la question, évidemment, avez-vous un ou des auteurs de prédilection dans la Série Noire ?
Si je vois l'époque moderne, j'ai lu les Doha. Hein, d'ailleurs, je sais bien que c'est pas son nom, mais je l'ai rencontré. On avait fait un dos à dos pour Libé, je crois. Donc voilà, un gars très sympa. Et évidemment, à l'époque, c'était vraiment c'était cette espèce de trilogie qui se passait dans des zones. Afghanistan, Pakistan, zone frontalière, Waziristan, donc des zones qui m'intéressaient beaucoup.
Vous, vous êtes inspiré pour 8e section des années passées, dans cette 8e section, dans les années 90. Alors, qu'est-ce que c'est que cette 8e section ?
Alors, le procureur de Paris avait voulu créer une section de gens spécialisés dans la permanence, un nombre réduit de personnes pour qu'ils puissent vraiment diriger et contrôler la police judiciaire. Ça a toujours été un problème pour la magistrature, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à contrôler l'activité de police judiciaire. On est noyé, donc ces six magistrats se faisaient la permanence des crimes et délits flagrants à longueur d'année, mais c'était assez invivable. Alors, ça permettait des rapprochements, ça permettait de voir les services qui sont bons, pas bons, et mieux évaluer à qui on va donner une enquête, selon la difficulté de l'enquête.
Ça, vous le décrivez au début du livre, la hiérarchie judiciaire, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont trois. Crime, la police judiciaire.
La DCPJ, ouais, les divisions de police judiciaire, DPJ à l'époque, et puis le commissariat du coin, la sûreté. Voilà, le problème est de ne pas donner une affaire simple à la brigade criminelle. Si on leur donne tout, et ben, ils vont être débordés, puis de toute façon ils ne prendront pas, ils ne feront pas. Et ne pas donner une affaire trop compliquée au commissariat du coin, parce que sinon ils vont la massacrer. Sauf que ce n'est pas toujours facile de le savoir à l'avance.
Et la 8e section a été supprimée en 1999.
Oui, tout à fait.
Donc votre roman se passe l'année de sa dissolution. L'un des héros est Lucien Autrey, substitut du procureur de la République, affecté à la 8e depuis 1996, qui vient de la permanence pénale du parquet de Bordeaux. Et d'ailleurs, parce qu'en lisant des interviews de vous, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'on dit parquet. Premièrement, est-ce que c'est simplement parce qu'il y a du parquet ? Et qu'est-ce que la galerie Saint-Éloi ?
On appelle le ministère public les magistrats du parquet parce que, sous la monarchie, ils étaient debout sur le parquet, ils requéraient debout. Et bon, c'était du parquet dans les...
J'étais pas si loin avec mes questions idiotes.
Non, excellente. Voilà, et les magistrats du siège parce qu'ils sont assis, les juges. Hein. Mais le parquet, parce que vraiment, ils étaient debout sur le parquet pour requérir comme un avocat du roi, en fait. Mais ils étaient au même rang que les autres avocats, quelque part. Et voilà, donc c'était pas tout à fait le même système qu'aujourd'hui.
Et la galerie Saint-Éloi du parquet ?
Galerie Saint-Éloi, c'est la galerie des juges antiterroristes à l'époque où les juges antiterroristes, avant le déménagement pour le nouveau tribunal judiciaire de Paris, étaient à l'île de la Cité. Donc on avait au troisième étage une galerie qui était sécurisée, qui s'appelait la galerie Saint-Éloi depuis longtemps, mais me demandez pourquoi. Saint-Éloi était un conseiller le roi, hein, Dagobert notamment, et il veillait qu'il ne mette pas sa culotte à l'envers, ça, je dis ça pour les petits bateaux.
Oui, bien sûr, oui, la fameuse chanson qu'on connaît tous.
Voilà, donc c'était le nom de cette galerie, et on l'avait sécurisée, elle avait été fermée avec des gendarmes qui contrôlaient à l'intérieur l'accès, et puis surtout un système de reconnaissance des doigts. Voilà, on avait deux doigts qu'on enregistrait, qui permettait, il n'y avait pas de clé, d'entrer avec ce système. Donc c'était une galerie sécurisée.
Ce qu'on voit à travers votre livre et votre expérience, c'est que le substitut du procureur, finalement, il a surtout des nuits déjà pas très tranquilles.
Ça, on ne le sait pas. Oui, ça, les permanences, surtout à Paris, effectivement, c'est 1, 2, 3 réveils par nuit. Oui. Le substitut, en fait, c'est souvent un homme ou une femme harassé, consciencieux, qui travaille en recevant fort peu de directives, sauf des directives de politique pénale qui n'ont rigoureusement rien à voir avec les options politiques des uns ou des autres. Il y a très très peu de dossiers qui intéressent vraiment les politiques. En tout cas, en ce qui me concerne, mon vécu quotidien, je n'ai pas reçu d'ordre, contrairement à ce qu'on laisse croire, oui. On dit que le parquet n'est pas indépendant. Au quotidien, sur la gestion des affaires courantes, il l'est incontestablement.
Marc Trévidic, vous publiez 8e section dans la série noire de Gallimard et dans votre épître dédicatoire, il y a toutes les professions qui vous ont entouré pendant des années et notamment Michel Bernard Requin, décédé en 2019, qu'on entend là en 2011 au micro d'Olivia Gisbert. Et comme votre héros est substitut du procureur, l'extrait convient
très bien,
parfaitement.
Et c'était ma chef de section, hein. Donc, alors, 7 ans, elle a quand même dirigé la 8e section, où normalement, au bout de 2-3 ans, on a envie de se pendre. Hein.
Et normalement, d'ailleurs, on dit pour faire venir les gens, on vous laissera là 2 ans, mais c'est rarement respecté.
Oui, c'est rarement respecté, mais disons que l'envie est forte. Et elle, bon, elle était à la fin, elle n'en pouvait plus, hein. Ça, faut être clair, à la suppression, elle craquait littéralement. C'était vraiment quelqu'un de de très bien. La raison de dire qu'au quotidien, évidemment, il n'y a pas de consigne, mais par contre, il y en a dès que l'affaire était un peu particulière, hein, faut pas rêver. Donc je mets un petit bémol à sa présentation des choses. D'ailleurs, au quotidien, je ne vois pas comment il ferait avec 100 appels par jour, je ne vois pas comment les supérieurs hiérarchiques pourraient intervenir d'une manière ou d'une autre, ça va tellement vite. Dès qu'il y a des choses sensibles, des grosses manifs, voilà, elle a connu l'église Saint-Bernard, Michel, donc ce qui s'était réfugié. Donc la 8e section était quand même le bras armé de la justice pour l'ordre public.
Mais vous décrivez tout de même un héros, ce Lucien, qui espère, en rentrant en plein milieu de la nuit chez lui, que son téléphone ne va pas sonner avant son réveil. Oui. Ça, vous l'avez vécu. Comment est-ce qu'on fait pour tenir ce rythme ?
D'abord, ça m'a entraîné une espèce de phobie du téléphone qui me suit encore. Bon, parce que là, c'est vraiment, on arrive,
c'est 7 jours sur 7.
Il est là, ouais, c'était infernal. Et puis surtout, quand il y a un truc qui nécessite qu'on se déplace, et ben, ça va être 2 heures sur place. Hein, donc,
avec souvent un cadavre. Quand même.
Oui, mais alors pas toujours. On va se rendre compte parfois assez vite qu'il y a peu de chances que ça soit un homicide volontaire. Il y a plein de cadavres suspects, en fait.
Où on ouvre des enquêtes. Cadavre suspect, c'est un beau titre. Cadavre
ouais,
suspect.
Pas mal. Bah, c'est ces enquêtes de recherche des causes de la mort. On ne sait pas trop. Voilà, bon, il y a ce cadavre. On va voir avec autopsie, avec différentes analyses, s'il y avait des toxiques, des choses qui puissent expliquer qu'il soit tombé du 5e. Avec sa rambarde est assez haute, ouais. Mais ça pose un problème parce qu'on accumulait beaucoup de corps comme ça sans avoir vraiment de réponse. On savait pas trop est-ce qu'on restitue le corps, jusqu'où on va. Il y a, à mon avis, beaucoup d'homicides qui sont passés à travers. Hein, et c'est toujours vrai, très certainement.
Vous dépeignez dans votre roman un système judiciaire en manque de moyens et ça se passe dans les années 90. Il y a par exemple le personnel pénitentiaire qui n'effectue plus de rondes nocturnes en détention, ce qui favorise les suicides, les viols et les sévices entre détenus. Est-ce que la justice a fait des progrès ?
Non. Non, vraiment, non. J'aimerais bien. Hein. Il y a toujours les mêmes problèmes en détention. Alors, évidemment, il y a des sensibilisations au gré des affaires qui ont été médiatisées. C'est vrai que de temps en temps, il y a un suicide d'un mineur ou un truc. Je me souviens à la fois aussi où un détenu avait mangé son co-détenu. C'était un peu bizarre.
Comment il l'a fait ?
Il l'a tué, puis il a commencé à le manger.
Sans le cuire.
Sans le cuire, mais...
Parce qu'il n'y a pas de quoi cuire. Ouais.
Enfin, non, mais c'est horrible, enfin, je veux dire...
Je vois qu'on rigole en cabine.
Non, mais alors après, de temps en temps, parce que les suicides en maison d'arrêt, nous, c'était la maison d'arrêt de la santé, c'était très fréquent, il fallait y aller à chaque fois. Et c'est vrai que... Bon, alors quand ils repèrent quelqu'un qui va pas très bien, généralement, ils essayent de le mettre avec d'autres détenus. Mais au contraire, parfois, il n'allait pas très bien, donc il l'avait isolé parce qu'il embêtait tout le monde et que ça se bagarrait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un éternel problème. On les isole pour s'ils sont violents, ils se battent avec les co-détenus. Et puis, malheureusement, quand ils sont isolés, ils se suicident. Donc c'est un peu le cercle vicieux.
Comment est-ce qu'on fait quand on est sans cesse confronté à des suicides, à des cadavres, à des homicides, volontaires ou involontaires, pour que le moral tienne ?
Il y a le côté professionnel, hein. il y a le côté, je fais mon boulot, je suis sur place, il faut vérifier ça. Très franchement, hein, peut-être un peu aussi comme un médecin légiste, il y a ce côté-là aussi. Moi j'ai vu beaucoup de professionnels, ça rigolait bien en autopsie par exemple. Bon, c'est toujours les blagues il enlève le foie, il fait mine de le balancer. Il y a ce côté...
Bonne
ambiance
côté,
ouais, bon, il y a ce côté étudiant en médecine, j'allais dire. Mais je trouve que ça se ressemble pas mal. Côtoyer la mort tout le temps, vous l'évacuez vite, justement vous concentrant sur la technique. C'est plus un être vivant, hein, c'est un corps, il faut en tirer le maximum d'informations.
Et est-ce que ça a modifié votre rapport à la mort ?
La seule chose qui modifie le rapport à la mort, c'est la mort des proches. Voilà.
Vous en avez peur ?
Mais oui, bien sûr, j'ai connu beaucoup de morts de mes proches, et là, ça fait souffrir, voilà. Alors maintenant, il y a la mort inadmissible. Je dis souvent, hein, les morts d'enfants sont très inadmissibles, parce qu'en fait, 6 ans, 7 ans, voilà, c'est pas dans la normalité, c'est hors norme, donc c'est compliqué. Mais sinon, non, on s'y fait pas vraiment, moi, au fil, là, j'en ai marre, j'avoue, là, pareil, c'est que des drames aux assises, là, franchement, ça commence à me peser, avec l'âge.
Nocturne parisien, roule ton flot indolent, morne Seine. Sous tes ponts qu'environne une vapeur malsaine, bien des corps ont passé, mort, horrible, pourri, dont les âmes avaient pour meurtrier Paris. Mais tu n'entraînes pas en tes ondes glacées autant que ton aspect m'inspire de penser.
Mais heureusement, contre le réel, il y a la fiction et la poésie. Marc Trévidic, vous avez placé en exergue de votre roman 8e section quelques vers de Nocturne parisien de Verlaine, extrait de ses poèmes saturniens qu'on entend ici lus par Michel Bouquet en 1958. Et la fiction, contrairement à l'essai, vous avez écrit aussi plusieurs essais, vous donne la liberté d'entrer dans la tête des criminels et de les faire parler à la première personne. Alors j'imagine que vous entrez déjà dans leur tête lors d'enquêtes, mais là vous pouvez trouver une complexité, et c'est ça qui est intéressant, c'est la complexité humaine que vous mettez en scène, c'est-à-dire qu'on peut comprendre le geste.
Tout à fait, et ce qui est le plus passionnant dans la matière criminelle, c'est la psychologie des criminels.
Est-ce qu'il arrive que vous ne compreniez pas le passage à l'acte ?
Bon, évidemment, quand c'est complètement aberrant et que la personne est psychotique et qu'on n'a pas d'autre explication qu'un déséquilibre mental, voilà. Après, parfois, c'est très complexe quand vous avez affaire à des gens qui ont vécu une vie relativement paisible et que, en fait, les frustrations sont accumulées, mais que des petites choses à chaque fois. C'est phénomène goutte d'eau, quoi. J'ai jugé, par exemple, une personne à 74 ans qui a fini par tuer sa femme. Tu l'as tiré 3-4 fois dessus, alors qu'il n'y avait rien eu de spécial au moment où il tire dessus. Mais après, toute la procédure d'assises, en entendant tous les proches, en fait, on sent vraiment que c'est 25 ans, 30 ans
d'accumulation,
de certaines frustrations. Alors, ce n'est pas du tout pour pardonner quoi que ce soit, mais voilà, donc c'est pas forcément, le passage à l'acte n'est pas forcément lié, vraiment une grosse frustration, quelque chose de terrible qui vient d'arriver, qui fait qu'on tue, ou quelque chose de mercantile, c'est parfois cette espèce de chose diffuse qui fait qu'un jour, la coupe est pleine et puis il se passe un passage à l'acte.
De quoi nous rendre polis et avec plein d'égards avec notre prochain. Entrons dans l'histoire de votre roman. On découvre au fond d'une majestueuse, là je vous cite, poubelle parisienne, un cadavre lardé de 53 coups de couteau et tanné.
Oui, ça c'est les experts qui vont nous apprendre que le corps est tanné. Alors, bon, évidemment, on c'est les mains et le visage pour pas qu'on reconnaisse. Hein. C'est clair que... il y aurait d'autres méthodes. Hein. On coupe les mains, on coupe la tête, on essaie de s'en débarrasser ailleurs. Non, mais je veux dire...
Ça, voilà. Vous l'avez vu combien de pourcents
non, le tannage,
sont
là,
inventés.
C'est, j'ai pas connu de corps tanné.
D'accord, mais, donc vous l'avez inventé.
Oui, là, je l'ai inventé, mais en fait, c'est assez logique, et je peux pas tout dévoiler,
non.
Par rapport à d'où viennent...
Oui.
Voilà. C'est tout, donc je me dis...
Les suspects.
Et parfois, l'origine des gens, leur culture, fait qu'ils vont utiliser des moyens qui sont complètement dans leur culture, voilà, pour tuer ou pour faire disparaître les preuves.
Justement, vous êtes spécialiste de l'islam radical. Mmh. Est-ce que vous avez utilisé vos connaissances culturelles des zones où il se trouve pour ce roman, sachant qu'il n'est absolument pas question d'islam radical
non,
dans ce roman ?
Non, tout à fait. Ah oui, non mais...
Par exemple, la Rohia, qui est l'exorcisme à base de versets coraniques.
Oui, je connais bien Fès, donc je me suis servi pour ce livre, et dans tous mes livres, oui. De ce que je savais, de la façon de penser, de raisonner, du fond culturel qui peuvent animer ces gens-là, que ça soit un terroriste, que ça soit un criminel classique, tout ce qui est culturel est intéressant, on est souvent dépassé par ça, mais on voit, on juge aux assises. Moi, j'ai eu une affaire de quelqu'un qui était mort lors d'une roquia, donc d'un exorcisme. Donc ça paraît bizarre, mais ça se fait en France. Mais oui, tout est possible.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Marc Trévidic, dans votre roman 8e section qui se passe entre la France et le Maroc, il y a plusieurs narrateurs, notamment Ness, la quatrième sœur d'une famille marocaine dont le père a été garde du corps du roi pendant 2 ans, puis chef de la police au Maroc. Et là, je ne parle pas spécialement de Ness, puisqu'il y a plusieurs femmes dans ce livre, et il est rare de mettre en scène des meurtrières dans la série noire. Je ne dis pas qu'il y est, parce qu'il y a plusieurs suspects.
Oui, ben moi ça m'intéresse assez, les femmes.
Et il y en a, et vous me le disiez hors antenne, ouais. Là, il y en a moins évidemment, que des hommes meurtriers.
Et puis ce sont des... Alors évidemment, on a connu aux assises, il y a les infanticides qui sont féminins, les bébés secoués qui sont pas mal féminins, il y a les pères aussi, pas uniquement. De temps en temps, il y a des meurtres, mais moi j'ai plus vu des femmes battues habituellement qui pétaient un câble et qui finissaient par tuer leur conjoint, on a infiniment moins, de toute façon, de délinquants ou de criminelles femmes. C'est 5% sur 95% d'hommes, les statistiques. Donc, je suis obligé de dire que les hommes sont plus violents, plus criminels, etc. Mais, parfois, ils agissent, même souvent, parce qu'il y a une femme derrière. Alors, c'est pas forcément de sa faute. C'est pas forcément Lady Macbeth, vous voyez, qui pousse au crime. Mais par jalousie, par... Donc, la femme est centrale dans l'histoire du crime. Elle est plus un mobile qui font que les hommes font n'importe quoi, sans être la meurtrière elle-même.
L'intrigue de 8e section est entrecoupée d'autres petites affaires, impliquant notamment des toxicomanes. J'imagine que vous en avez souvent vu. Et je prends l'excuse pour vous poser cette question personnelle. Avez-vous une addiction ?
Est-ce que j'ai une addiction alors que je ne prends pas de drogue ? J'ai arrêté de fumer.
Bravo, vous pouvez répondre le travail pour vous en sortir.
Ah oui, voilà, je cherchais, j'ai vu. Voilà, non, mais bon, j'aime bien le vin.
Le château d'Yquem.
Ouais. Non, les trucs un peu moins chers.
Oui. Plus accessibles.
Voilà, ouais.
Alors, on apprend plein de choses sur le fonctionnement judiciaire dans votre roman. Par exemple, que l'action de déférer, ça permet parfois de trouver une solution alternative à l'emprisonnement.
Mmh. Ah ben oui, on peut faire déférer devant soi quelqu'un et puis finalement ne pas l'envoyer en comparution immédiate. On fait une convocation simplement avec un contrôle judiciaire. On le faisait beaucoup pour les maris violents à la lutte où on leur interdisait, on les obligeait de partir de chez eux quoi, pendant le contrôle judiciaire et puis on leur donnait une convocation pour venir se faire juger quelques temps plus tard devant le tribunal.
Et les comparutions immédiates, c'est la 23e chambre correctionnelle. Ouais. Et par exemple, quand on a commis un meurtre, parfois on prend moins d'années si on est jugé aux comparutions immédiates que...
Non, alors il y a des choses correctionnalisées, le meurtre non, parce qu'il y a un cadavre, mais des coups de couteau, ce qui pourrait être qualifié de tentative de meurtre, où la victime en réchappe, ça passait parfois en comparution immédiate, rapidement, etc. Les faits étaient clairs, avec des peines assez lourdes, au lieu de effectivement, 2 ans d'instruction, plus 2 ans encore pour être audiencé. Non, quand il y a quelqu'un qui est mort, là, on n'a pas le choix, c'est nécessairement criminel, et on ne peut pas correctionnaliser. Mais il y a des viols qui passent en agression sexuelle, il y a plein de choses.
Connaissez par cœur, Make You Feel My Love de Bob Dylan sur l'album Time Out of Mind, écouté par votre héros Lucien en voiture dans votre roman. Comment vous décompressez dans un tel milieu ? Est-ce que vous avez des astuces, Marc Trévisic ?
La musique, oui. Ça, c'est la plus grande. Alors, écouter de la musique, jouer de la musique.
Que vous faites de l'harmonica et de la guitare ?
Oui, c'est ça. Surtout de la guitare, l'harmonica, j'en faisais beaucoup plus quand je voyageais beaucoup à l'antiterrorisme. Hein, c'est la fameuse histoire de... Quand on voyage beaucoup, il faut trouver un instrument de musique qui se transporte facilement.
Ça aurait pu être un ukulélé.
Ouais, non, mais...
Bon, je sens un jugement sur le ukulélé.
Oui, je suis pas trop ukulélé.
Très bien.
Désolé.
Alors, quand on s'intéresse à votre parcours, ce qui est amusant, c'est qu'au début de vos études de droit, vous trouviez ça un peu barbant. Et puis la révélation eut lieu à la deuxième année, quand vous vous êtes rendu compte que ça embrassait absolument tout ce qui vous passionnait.
Oui, tout à fait. En fait, le droit, il y a tellement de matières différentes. Vous pouvez vous spécialiser dans ce que vous voulez. Vous êtes droit constitutionnel, droit des institutions de l'Antiquité, si vous adorez Rome et la Grèce, relations internationales. Enfin, c'est vraiment très large. Et puis, justement, le monde est large et chaque pays a son droit, plus les juridictions internationales. Enfin, franchement, et puis toutes les matières, si vous aimez le droit social, vous avez le droit du travail, le droit de la sécu. Il y en a pour tous les goûts, très franchement.
Et vous aviez une idée très romantique du juge d'instruction, l'image d'un Zorro, mais elle a changé.
Oui, j'avais cette idée parce que le juge Michel avait été assassiné en 81. Donc c'est un peu ce qui nous a marqué. Puis avec le film qui avait été fait derrière. Donc c'était la personne qui lutte un peu tout seul face contre les méchants. Alors, il y a un peu de ça, mais enfin c'est un peu simpliste de voir les choses ainsi, quoi.
L'immeuble du Corbusier, dans le 6e arrondissement de Marseille. Il est 13h. En bas, la contre-allée du boulevard Michelet. Un motard coiffé d'un casque blanc s'arrête à un feu rouge. Il est rejoint par une autre moto sur laquelle sont assis deux jeunes gens. Trois coups de feu retentissent. Le juge d'instruction, Pierre Michel, est atteint de 3 balles de 11.43, dont 2 à la tête et 1 dans le thorax. La mort est instantanée. Ce soir, magistrats et avocats rendent hommage au juge Pierre Michel, qui faisait partie de cette nouvelle génération de magistrats, plus enquêteurs sur le terrain que leurs prédécesseurs.
21 octobre 1980, le JT de France 3 sur l'assassinat du juge Michel. Marc Trévidic, vous rappelez que vous êtes d'une génération marquée par ce drame et ce genre d'événement. Qu'est-ce que vous pensez que ça a créé dans votre psyché ?
Ça a créé l'envie d'être juge d'instruction. C'est assez curieux quand même. L'idée de... que... Je sens que ça fasse tuer que.
Mais pas de peur.
Non. J'aspire à finir tranquillement mes vieux jours. Mais non, mais c'est si vous voulez, je pense que tout le monde aspire à la justice vraiment, et tout le monde est surtout dégoûté par le crime, la criminalité, les gens qui font n'importe quoi, qui pourrissent la société, les gangs, les mafias, qui s'en moquent de la vie humaine, qui sont capables de rafaler à la caloche aujourd'hui à Marseille, en se moquant que derrière, sur la terrasse du café, il y a des jeunes, des gens qui peuvent prendre une balle. Il y a vraiment des vrais salopards, hein, faut être clair, hein, et voilà, en dehors de toute autre considération. Et le juge d'instruction montre que aussi, même tout seul, même peu aidé, on peut arriver à faire des choses. Ça, c'est la vérité du juge d'instruction. Mais j'ai eu autant d'admiration pour Renaud Van Orenbeek, pour Thierry Jean-Pierre, pour des gens comme ça, hein, qui ont pris des sacrés coups et qui ont construit aussi mon attirance pour juge d'instruction.
Il y a une leçon que vous avez apprise assez tôt, quand vous étiez au tribunal de Péronne dans la Somme. C'était une affaire dans laquelle une sœur accusait son frère de viol.
Ah, exact.
Et là, de quoi vous êtes rendu compte ?
Ben que c'était pas lui, c'était pas le frère. Heureusement, la génétique commençait à...
L'ADN.
L'ADN, et surtout, elle était enceinte et qu'on a pu récupérer l'embryon. Et donc, elle l'avait accusé à tort. Et ben voilà un exemple de choses où on est dans l'incompréhension. Parce que je la fais venir, je lui dis, vous êtes sûr, hein, pas de relation sexuelle à part votre frère, donc vous êtes enceinte, donc ça peut être que lui, on est bien d'accord, c'est clair, ça c'est acquis. Oui, pas de problème, pas lui. Donc l'âme humaine, la façon de fonctionner là-dedans, par moments on se pose des questions quand même. Hein.
Parce qu'on peut être vraiment convaincu de quelqu'un. Quelqu'un peut se croire lui-même en témoignant ?
Oui, peut-être, mais là, pour cette histoire un peu plus compliquée, parce qu'en fait, elle avait été violée par son père.
Ah
et
ouais.
Donc, il fallait accuser le frère, parce que vous trouvez... Voilà. Enfin, voilà. Non, mais c'est glauque. La Picardie, par moment, c'était un peu glauque. Si vous voulez des histoires glauques,
mais ça va
casser l'ambiance.
Ailleurs, mais... Ouais. Voilà. Non, mais je pensais, parce que c'est cette histoire qui a fait que vous vous êtes dit, dorénavant, je me concentrerai sur les faits,
ouais.
Et plus sur ce qu'on essaye de me...
Oui, je fais attention, tout à fait d'accord.
Quand on essaie de me convaincre.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, ne recouvrant ce que l'on délaisse. La rue de Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse. Je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse.
Le morceau Brest de Miossec, qui d'ailleurs habite à Brest, et ville que je salue. Et Marc Trévidic, c'est votre choix musical, et je me demande si c'est pas parce que votre père était breton.
Oui, la Bretagne me manque très souvent. Si vous m'aviez invité dans une autre émission, je vous aurais dit La Mélancolie, c'est cette chanson.
Ah oui.
Ah oui, tout à fait. C'est à la fois les choix qu'on doit faire, le regret quelque part de les avoir faits, parce qu'un choix n'est jamais complètement parfait, le temps qui passe, le regard sur la vie passée, plein de choses qu'on a fait, des choix, et on se dit finalement, est-ce que ma vie aurait été meilleure, moins bonne, si j'avais pas fait ces choix-là? Je me serais bien vu, moi, vivre en Bretagne assez longtemps. Et puis la vie m'a fait faire rencontrer plein de choses. Mais bon, la Bretagne, et puis je suis finistérien, donc ça me fait quelque chose. Et il y a une pureté du son au départ, quelque chose de très cristallin, hein, qui fait du bien.
Mais alors, il y a plein de zones géographiques dans vos origines, puisque vous avez une mère basque, ouais, mais qui est née à Dakar, qui a vécu les 16 premières années de sa vie en Afrique. Votre père est parti faire son service militaire, votre mère a déménagé à Paris. En fait, il y a quelque chose qui revient à chaque fois dans les interviews quand vous parlez de vos parents, c'est qu'ils vous ont manqué. Et même pendant les vacances d'été, ils voyageaient, ouais, en amoureux sans les enfants.
C'est vrai.
On ne peut pas leur jeter la pierre, mais...
Non, mais ils étaient super, mes parents, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même leur vie de couple, qu'ils avaient envie de profiter de la vie. Et c'était vraiment des très grands voyageurs. C'est-à-dire que s'ils ne nous emmenaient pas, c'est parce qu'ils sont allés en Chine plusieurs fois, mais en Chine d'il y a longtemps, en Union soviétique, sur la route de la soie, en Birmanie. Enfin, ils faisaient des voyages tout le temps. Ma mère ne pouvait pas, elle voulait découvrir l'Asie surtout. Ils ne pouvaient pas nous emmener, c'était trop galère ces voyages-là, et puis ils avaient besoin de ça. Alors maintenant, ça me fait bizarre de parler d'eux, parce qu'ils sont morts à 55 et 56 ans, donc je suis plus vieux. Moi, je suis plus vieux qu'eux. Donc. Mais ceci dit, mon frère nous avait dit, à la mort de ma mère, il a dit, bon allez, notre challenge maintenant, c'est 57. Et bien, on l'a dépassé tous les deux.
Je vous souhaite plus.
Oui, non, mais je veux bien du rab un
40
peu.
40 000
hein. C'est ça. Non, non, quand même pas. Voilà, mais non, donc... du coup, j'ai vécu une partie de mon enfance pour les vacances aussi, en Bretagne, au Pays Basque, alternativement.
Ils ont travaillé, vos parents, tous les deux, chez Renault, et vous êtes aussi rêvé pilote de Formule 1.
Oui, parce que mon père, quand Renault a commencé en Formule 1, disons surtout l'année 78... avec le moteur turbo, ils avaient fait un ou deux grands prix en 77. Le moteur turbo, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux et tout ça, il m'a amené voir des grands prix. J'étais fasciné, même si la voiture finissait rarement un grand prix à l'époque, parce que c'était une nouvelle technologie, le moteur turbo. Et ça m'a vraiment donné le goût. J'ai commencé à faire du karting et puis j'étais mauvais. Voilà.
Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rats
pas eu pouvoir mener par un gros clown cynisme.
Eh bien oui, on passe « Quand t'es dans le désert » de Jean-Patrick Capdevielle, puisque Marc Trévidic, j'ai lu que vous aviez appris tous ces morceaux.
Oui, j'ai
vous y êtes rocker.
Et puis surtout, c'est devenu un ami en plus.
Comme Ryan Ferry.
Comme Ryan Ferry. mais Jean-Patrick Capdevielle, on se voit. Voilà, c'est un. Maintenant, il fait que de la peinture. Et c'est vraiment un peintre assez exceptionnel. Hein. J'ai vu un vernissage il y a quelques temps. Et il est vraiment doué pour la peinture. C'est un artiste, en fait.
Complet.
Il a un humour aussi que j'aime beaucoup. Un côté anard, ça c'est curieux. Donc c'est quelque chose j'aime beaucoup ce personnage.
Donc là, on a parlé de musique et de peinture, mais il y a quelque chose que vous adorez, on avait commencé par là, c'est la poésie, notamment Byron et Verlaine, évidemment.
Oui, tous les poèmes, mais bon, évidemment, Rimbaud, etc., et puis même Hugo, enfin, je dis même, parce que c'est trop classique pour dire ça, mais parce que plus je vieillis, plus j'aime la poésie. J'ai aimé quand j'étais jeune, à 14 ans déjà, c'est pour dire, mais c'est vrai, c'était plus Byron, Shelley, sans doute parce que c'était finalement pas Shelley, c'était assez opaque, un peu difficile, Prométhée, tout ça, c'est pas évident.
Et vous aimez ce que vous ne comprenez pas, j'ai
voilà,
lu ça dans
exactement.
Une interview.
C'est vrai. C'est vrai que j'aime bien voilà. Mais par exemple, j'aime beaucoup Verlaine. Or, Verlaine est tout à fait abordable, compréhensible, il n'y a pas de souci. Et pourtant, j'adore Rimbaud aussi. Donc, je suis un peu. C'est un peu comme. Adorer Brassens, alors que c'est carré. Et voilà. Et puis, adorer Bachung, si vous voulez. On est dans des choses hermétiques ou pas. J'ai goût assez éclectique, mais j'aime bien, comme pas mal de chansons de Bob Dylan, pouvoir lui donner 10 sens différents et au fil de ma vie, lui trouver d'autres sens que je n'avais pas compris au départ.
Terminons en musique. On n'avait pas parlé de cinéma, Marc Trévidic, c'est un film que vous adorez, Laurence d'Arabie de David Lean, musique mythique de Maurice Jarre.
Ouais.
Est-ce que dans les secondes qui nous restent, vous pouvez recommander aux auditeurs des films ou des livres que vous affectionnez particulièrement ?
Alors, il y a un film qui m'avait énormément touché, mais j'oublie toujours son nom, c'est avec Sophie Marceau, elle est petite fille et s'envoie des messages à lire, elle donne à un huissier des messages à lire quand elle serait grande. Si je me souvenais du titre, j'avais adoré ce film. Et donc, en fait, elle reçoit ses courriers des années plus tard, elle est grande, et c'est la petite fille qui lui écrit en disant « J'espère que t'as pas oublié tes rêves, c'était ça, ça, ça. » Et puis le petit garçon que t'aimais à 8 ans, il faudrait que tu le retrouves. Enfin, c'est vraiment superbe, j'ai beaucoup aimé cette vie. Impossible de se souvenir de son nom.
Eh ben, reste 10 secondes pour que vous nous disiez ce que vous écririez si vous étiez le Marc Trévidic enfant ou Marc Trévidic adulte.
Ce que je m'écrirais à moi-même.
Sur un post-it, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Oh là là, je vais écrire. Oh là là.
En trois mots.
Oh.
Moi, je crois que la lettre n'arrivera jamais.
J'arriverai, non, mais là, je ne sais plus. Là, c'est trop difficile.
Bon, bah, merci beaucoup, Marc Trévidic. Le roman 8e section, je vais aller à toute allure, je suis un peu en retard, est paru aux éditions Gallimard. Vous serez en dédicace le 12 avril de 17h à 18h au Festival du Livre de Paris et juste avant sur la scène du Grand Palais à 16h pour une rencontre à trois sur le sujet violence et corruption au cœur de nos villes. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Betty Algray et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Jérôme Ragano. À demain, 20h10.